Et vous êtes bien à l'écoute de Radio Shalom Bourgogne, le 97.1. Ravi de vous retrouver pour cette émission. J'ai rendez-vous avec vous. Émission, je vous le rappelle, présentée par notre ami Frédéric Gillot, qui reçoit pour la deuxième partie ce soir Mario Sossereau-Jouvenceau et Bernard Gugger. Restez bien à l'écoute. Vous allez avoir la chance d'entendre nos deux amis jouer de l'accordéon. Excellente soirée. Peut-être excellente journée si vous nous écoutez en podcast. A très bientôt à l'écoute de Radio Shalom Bourgogne, le 97.1 FM.
Cher Bernard, vous avez suivi une formation au numérique pendant votre carrière de professeur. Est-ce que vous aimez le numérique ?
Oui, c'est une discipline, enfin une science que j'ai découverte très très tôt, puisque dès l'arrivée des premiers ordinateurs dans les établissements scolaires, je m'étais porté volontaire pour suivre les formations, pour travailler avec. Pour moi, ça reste un outil au service de la pédagogie quand j'étais enseignant, mais je me suis passionné pour cet outil et j'ai vraiment développé pas mal de compétences dans tous les domaines que couvre l'informatique.
Que pensez-vous de la place de l'intelligence artificielle, son développement actuel dans la société ?
J'ai toujours poussé, mis en avant les logiciels libres, les logiciels open source. J'ai toujours travaillé en essayant de m'éloigner des majors, des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. pour que les données qu'on produit, qu'on utilise, nous restent propriétaires et non pas partent on ne sait où et dans n'importe quelle condition. Je m'étais toujours dit que je n'utiliserais jamais l'intelligence artificielle pour éviter justement que mes données ne servent, je ne sais à quoi, mais n'enrichissent, ces logiciels, ces moteurs. J'ai un fils qui est professeur de mathématiques et qui maintenant est ingénieur en intelligence artificielle. Donc nous avons des fois des discussions. La dernière fois, je lui ai demandé un outil pour transformer un programme dans certains logiciels vers un autre logiciel. Il m'a dit, t'as qu'à utiliser ce que tu ne veux pas utiliser, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et donc j'ai fait cette première expérience et j'ai été scotché, estomaqué par le fait qu'une machine arrive à transcrire un programme d'un logiciel vers un autre. Et de plus, me mettre des commentaires en me disant « là, vous avez bien fait, là, vous auriez pu tourner comme ceci, là, vous auriez pu tourner comme cela ». Donc ça, je vais répondre à votre question, hein, mais je préférerais faire ce petit préalable parce que c'est quelque chose qui me semble important. On ne peut pas critiquer sans avoir essayé. Donc là, j'ai essayé et j'ai été vraiment estomaqué. Et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que pas longtemps après, j'ai été invité par un ami qui a un fils adolescent, à qui j'ai demandé justement, j'ai dit, mais tiens, tu nous dis que tu fais de la programmation, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour pas citer de programme ? Il m'a dit, bien sûr, j'ai une idée, je lui demande, il me le fait, et après moi je regarde comment il a fait, je comprends comment il a fait. Donc on en arrive à l'usage d'un outil où c'est lui qui apprend comment faire et non plus nous qui lui apprenons comment faire. Donc je trouve qu'il y a une bascule qui est à la fois intéressante et à la fois inquiétante. Donc, par rapport à l'usage qui en est fait dans les classes, je ne sais pas exactement quels sont les enseignants qui l'utilisent ou pas, mais par rapport aux élèves, je crois qu'on a beaucoup de retard et qu'il est temps d'intégrer quelque part dans une forme d'enseignement une étude critique de cet usage de l'intelligence artificielle, qui est un phénoménal outil, mais qui va être extrêmement dangereux aussi dans la manipulation de la pensée, dans la manière de concevoir et de comprendre les choses.
Oui, lorsque vous dites une étude critique, une étude pédagogique également, et puis bien entendu constructive.
Oui, on avait à un moment l'éducation aux médias qui se faisait dans les collèges par les professeurs documentalistes.
L'EMI.
Et là, je pense qu'il faudrait qu'elle soit vraiment énormément développée et qu'elle intègre aussi bien les réseaux sociaux, enfin l'analyse de ce que font les réseaux sociaux, des réponses qu'ils apportent à nos commentaires, et l'analyse de l'usage de l'intelligence artificielle. On ne peut pas le bloquer. C'est un phénomène qui est en marche. Simplement, il faut apprendre à vivre avec et à vivre à le contrôler.
J'allais dire comme on a appris à vivre avec l'informatique il y a quelques années de cela.
Tout à fait, comme on a appris à vivre avec Internet, etc.
Voilà, et chaque évolution, bien sûr, est une forme de révolution, avec les tenants, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, voilà, les détracteurs, les tenants d'une telle méthode. Et notre doctorant, il en pense quoi de l'intelligence artificielle, en quelques mots ?
En quelques mots, bah, sur les deux aspects enseignement et recherche, je pense que c'est exactement, enfin, je rejoins à 100% ce que dit Bernard, hein. C'est-à-dire que c'est un outil qui est formidable, mais qu'il faut avoir pleinement conscience des limites, qu'il ne faut pas qu'il se substitue à l'exercice de la réflexion.
Et de la pensée humaine.
Et de la pensée humaine, tout à fait. Que tant que ça reste un outil utilisé dans les bonnes limites, dans les bonnes conditions, pas de souci, mais voilà, qu'il faut avoir conscience de là où s'arrête tout ça.
Et dans ce que tu disais tout à l'heure, Mario, je crois que la littérature, la philosophie ont leur rôle à jouer pour justement prendre avoir cet esprit critique et avoir ce recul.
Très bien. Revenons à Bernard. Dans votre CV, Bernard, vous expliquez avoir fait un stage dans une, je cite, « ferme perdue de l'Ardèche » quand vous étiez jeune, à l'âge de 15 ans, et vous l'aviez fait par l'entremise de votre père. Qu'est-ce que vous avez mené comme activité dans cette ferme ? Quelle expérience en avez-vous tiré ? Et tout à l'heure, vous disiez que vous étiez bon, professeur de technologie. Est-ce que vous auriez pu être agriculteur-éleveur ?
Alors, je suis allé en Ardèche parce que j'avais envie de m'éloigner un peu de la famille et j'aimais beaucoup la nature. Et donc, j'ai demandé à mon père qui travaillait qui passait de ferme en ferme, en Côte d'Or, de me trouver une ferme assez lointaine pour pas qu'ils viennent me voir, parce que je voulais vraiment être autonome
tranquille,
voilà. Et donc, on a trouvé une ferme en Ardèche et je suis arrivé chez un couple d'agriculteurs qui n'avaient pas d'enfants et qui n'avaient pas pu en avoir. Et j'ai découvert ce que c'était que l'agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'ils avaient tout. Des vaches, des cochons, des chèvres, des moutons, des poules, des lapins. Ils faisaient un peu de céréales, ils faisaient du miel, ils faisaient les châtaignes, ils faisaient les champignons. Donc, la première année, j'y ai passé 6 semaines où j'ai appris à conduire un tracteur, où j'ai appris à traire des vaches. Je me suis occupé des brebis, mais ça, j'en avais déjà l'habitude. J'ai appris à traire les chèvres, j'ai nourri les cochons, enfin, etc. J'ai fait tous les petits métiers.
Polyvalents.
Polyvalents, exactement. Mais ces petites fermes de l'époque étaient quand même des fermes très, très intéressantes parce qu'on y découvrait vraiment énormément de choses. Et en plus, les deux fermiers qui m'ont accueilli étaient des gens, on pourrait croire qu'au milieu de l'Ardèche, dans un coin perdu, les gens soient entre guillemets arriérés, mais pas du tout. C'est des gens qui chantaient des airs d'opéra, c'est des gens qui connaissaient beaucoup de choses et qui étaient très curieux. Donc j'étais un puits de savoir pour eux, mais eux étaient un puits de savoir pour moi. C'est vraiment des gens que je remercie de m'avoir accueilli. Et par la suite, j'ai continué d'aller les voir jusqu'à très récemment. Je passe toujours un petit moment en Ardèche, c'est mon deuxième pays de cœur.
Et vous auriez pu être agriculteur-éleveur ?
Alors oui, je n'ai pas répondu à cette question, pardon. Alors, il a été question à un moment, je me suis posé la question de m'installer. J'avais un ami de terminale qui lui aussi avait fait des études d'agriculture et on s'était dit, comme on faisait les colonies ensemble, on s'était dit, tiens, on va faire un retour à la terre à notre manière. C'était bien après les années 68, mais pas tellement longtemps après. Et on a hésité. Et le fait de goûter au travail de la ferme, de vivre 6 semaines l'été, 15 jours l'hiver à Pâques, je me suis dit, c'est quand même s'enfermer dans un monde dont on ne sort pas, entre guillemets, c'est-à-dire qui est très prenant.
Oui.
C'est un métier où on ne peut avoir de vacances que si vraiment on trouve quelqu'un qui vous remplace. On
c'est
a une
ça.
Place qui est indispensable.
J'allais dire, il vaut mieux oublier les vacances.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Et donc, le hasard a fait qu'on a un peu oublié cette idée-là et on est parti chacun dans des directions différentes et je suis devenu enseignant. Mais je continue d'aller dans la ferme hein, puisque c'est le neveu de ce monsieur qui l'a reprise et qui est un ami. Et lui passe toujours ses journées. Mais ils ont monté un GAEC et il arrive maintenant à prendre quelques temps de vacances puisqu'ils se remplacent les uns les autres. Ils ont un week-end de prix par mois. Voilà.
Je vous remercie, cher Bernard, d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences. Nous abordons à présent le dernier volet de cette émission, puisque j'ai parlé en introduction de votre point commun à tous les deux, Mario et Bernard, à savoir la passion pour l'accordéon et pour la musique. Alors, je vais commencer par Bernard. Votre passion pour la musique, elle remonte à très loin. Et comment est-elle née? Comment avez-vous vécu toutes ces années? Et voilà, comment la musique est venue jusqu'à vous? Ou comment êtes-vous allé jusqu'à la musique?
Alors, je ne sais pas qui est allé vers qui, mais les deux se sont retrouvés et se sont réunis.
Voilà.
Bah moi, j'ai commencé par la guitare. J'avais une voisine à qui je donnais des cours de maths, enfin, que j'aidais à comprendre les cours de mathématiques. Et elle prenait des cours de guitare. Donc, on a échangé un petit peu. J'ai commencé à jouer de la guitare. Ensuite, je suis allé à l'internat au Castel à Dijon et j'ai croisé des jeunes qui montaient un groupe de musique pop. Et donc, je les ai rejoints et avec ma guitare, je faisais les accompagnements. Et puis, par la suite, j'ai découvert la danse folk et j'ai vraiment eu envie de faire de la musique pour faire danser les gens. Et l'accordéon diatonique, c'était vraiment l'instrument à faire danser et donc je me suis mis à l'accordéon. En parallèle de tout ça, la guitare, ça a beaucoup servi dans les colonies que je continuais d'animer. L'accordéon, ça a permis de faire danser les petits colons. Et donc, ces deux instruments ont vraiment fait partie de ma vie pendant un bon moment. Puis, on est devenu adulte, on s'est marié, on a eu des enfants, donc on a eu un peu moins de temps pour la musique. Elle restait un petit peu à l'écart. Et puis, une occasion a fait que j'ai pu tester un réel accordéon, parce que moi j'avais un petit accordéon pas cher, donc c'était pas un très bon instrument. Et le fait de tester une Rolls-Royce en accordéon, on va dire, m'a poussé à reprendre les claviers. Et mon épouse m'a dit, ça coûte des sous, donc si t'en achètes un, c'est pour faire danser. Donc on a monté une association à Longecourt, et donc j'ai fait danser à Longecourt grâce à cet instrument, et depuis, on a repris. Voilà.
Et cette association, c'est
C'est l'association Tradidance. Voilà. Tous les mardis, j'anime un atelier de danse parce qu'on parle de ma passion musique, mais ma passion musique est très liée à ma passion danse. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup aussi montrer, présenter et faire avancer les gens dans la pratique des danses.
Et garder quelque part aussi une certaine tradition aussi.
Oui,
La tradition
tout
de la
fait.
Danse.
La danse traditionnelle sans trop modification, telle qu'elle a pu être collectée ou à peu près comme elle a été collectée.
Et vous, mon cher Mario, vous portez un grand intérêt à l'accordéon également. Racontez-nous ce qui vous a donné envie de jouer et même parfois de vous laisser vous laisser aller plutôt à la composition.
Alors pour le début à l'accordéon, le hasard total, c'est-à-dire que je faisais des activités à la MJC de Nuit-Saint-Georges, mes parents sont à côté de Nuit-Saint-Georges, et à un moment donné, j'avais envie de changer d'activité, on est allé aux portes ouvertes, et sur les marches des halles de Nuit-Saint-Georges, j'ai vu jouer le groupe d'accordéon diatonique, qui était à l'époque animé par Jean Léger, que je salue s'il nous écoute, et qui a été mon premier professeur d'accordéon. Voilà, j'ai suivi ses cours pendant 2 ans à l'MJC de Nuit-Saint-Georges. Et pour revenir à l'anecdote des portes ouvertes, c'est un instrument qui m'a attiré. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être rigolo. Je suis allé les voir, quelqu'un m'a mis l'accordéon dans les bras, et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu plus. Et puis, après, ça ne m'a pas quitté. Jean Léger, donc mon premier professeur, a pris sa retraite 2 ans après que je sois arrivé. Donc quand lui est parti, son groupe d'anciens élèves, on va dire, on a continué à se voir dans la même salle, aux mêmes dates qu'avant, mais à progresser par nous-mêmes, à se faire plaisir en fait, principalement. Et en rencontrant de plus en plus de personnes dans le coin, j'ai été intégré à de plus en plus de groupes, c'est notamment dans l'un d'eux où on s'est rencontré avec Bernard, et également à travers des stages d'accordéon qu'il organisait à Longecourt avec son association. Donc on s'est connus là, on a très rapidement... le contact est bien passé, on va dire, à faire les guignols de notre côté. On s'est dit, tiens, les guignols à deux.
On a une approche du jeu de l'accordéon qui est très proche, finalement. Enfin, on joue différemment, mais on joue dans la direction des rythmes de danse et d'essayer de respecter ce rythme de danse. Et j'ai trouvé très intéressant et vraiment passionnant qu'un jeune comme Mario ait tout de suite cette notion du rythme. Voilà.
Mais Mario, donc, vous avez découvert l'accordéon à Nus-Saint-Georges, à cette MJC de Nus-Saint-Georges, ou alors vous baignez un petit peu de façon familiale, parce que moi je pense à des grands-parents maternels qui aiment beaucoup l'accordéon. Ça vous est arrivé peut-être en allant faire un petit séjour chez eux d'écouter
Eh ben,
l'accordéon?
j'ai jamais fait de bal avec mes grands-parents et en fait, c'était pas un sujet qu'on avait forcément abordé avant. C'est à
D'accord.
partir du moment où voilà, je me suis mis à l'accordéon, où ils l'ont appris, où eux, on a commencé à en parler un petit peu, où mes grands-parents m'ont raconté que voilà, étant jeunes, ils faisaient les bals,
OK.
que ça faisait vraiment partie de leur vie, toutes ces animations-là, la danse, la musique traditionnelle. Vous parlez de mon côté maternel, parce que bon, voilà, vous connaissez un petit peu ma famille de
Je
ce
les connais bien,
côté-là,
voilà, oui.
mais également du côté paternel, hein, où j'ai appris voilà, que j'avais de la famille aussi qui a eu joué de l'accordéon.
Oui.
Et que voilà, en fait, c'est. Mais je pense que c'est ça pour beaucoup de personnes, hein, où voilà, quand on remonte les générations, tout le monde est un petit peu passé par là. Les bals à l'époque, c'est ce qui rassemblait. Les gens allaient au bal. Et se rassembler dans ces endroits-là, se rencontrer.
Bien
Beaucoup
sûr.
de couples de la génération de cette génération-là qui se sont formés dans les bals
Mon
et voilà, et
père,
c'est quelque chose qu'on essaie de faire
hein,
continuer à vivre
mon
aujourd'hui.
père aussi jouait de l'accordéon dans les bals et il a rencontré ma mère comme ça. Hein. Je crois que
Voilà.
c'était
Oui,
générationnel d'une certaine
c'était vraiment
période,
l'époque,
l'époque des bals
voilà, les
populaires et
bals
tout.
populaires.
Ouais.
On peut citer d'ailleurs, puisqu'on est dans la région du Val-de-Saône, les bals Garaudet, etc. Ou l'été dansant le dimanche après-midi, qui étaient souvent d'ailleurs des lieux de rencontre. Et en tout cas, voilà. On a parlé tout à l'heure, on a dit un petit mot sur Tradidance, vous l'avez juste cité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Tradidance, Bernard?
Alors oui, c'est donc une association qui a été créée en 2008, donc on a bientôt 20 ans. Au démarrage, on était une douzaine de danseurs, puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et donc maintenant, on est 40 adhérents, avec régulièrement sur le parquet 34-35 danseurs. On ne fait pas de spectacle, hein, on n'est pas un groupe folklorique, on est vraiment dans de la musique traditionnelle et de la danse traditionnelle, on danse pour notre plaisir à nous, un peu égoïste. On accueille les gens et petit à petit, on les amène à savoir danser. Alors au départ, j'étais le seul à amener petit à petit les gens à danser. Puis maintenant, j'ai des tradis danseuses et tradis danseurs qui sont là depuis bientôt 20 ans. Donc c'est eux aussi qui accompagnent, qui emmènent. Et c'est ce côté convivial qu'on aime bien, c'est ce côté vie de groupe. Je ne suis pas un professeur de danse, j'anime. J'estime que j'anime. Même si les gens ne mettent pas les pieds exactement sur le bon pas, au bon moment,
C'est pas
on laisse
grave.
passer. Et je sais que petit à petit, et j'en ai maintenant la preuve, petit à petit, les pieds arrivent bien sur le rythme de la musique, parce que ce sont des danses tellement entraînantes et tellement calibrées par rapport à la musique, que finalement, le rythme du corps va s'adapter à la musique et va se mettre en place. Voilà.
Quel public accueillez-vous dans vos cours de
Alors,
danse?
ce ne sont pas des cours, ce sont des animations, des ateliers, pardon,
Animation.
excusez-moi. Ce sont
Ok.
des ateliers de danse, donc je réfute le terme de cours parce que je ne veux pas être professeur. Là, je veux vraiment être l'animateur et la personne qui permet aux gens de bouger. Mais tout le monde montre les pas et s'entraide. Avec ça, j'ai perdu la question.
Oui, quel public accueillez-vous?
Pardon. On a un public de retraités, beaucoup de retraités. Quelques personnes qui sont encore dans l'emploi, mais on n'a pas du tout de jeunes. Nous, notre atelier à Longecourt, je le regrette, n'attire pas beaucoup de jeunes. J'ai essayé de faire des animations auprès des écoles primaires, d'attirer, enfin de dire aux gens que c'était des danses qui sont faciles à apprendre et tout. On n'a pas encore vraiment réussi à attirer des jeunes. Par contre, quand l'association organise un printemps du folk, on est en plein dedans là, en ce moment. On a eu samedi dernier une journée de stage de danse de Flandre avec un bal le soir. Et samedi prochain, on a une journée de pratique musicale où on va faire évoluer les gens à découvrir et à perfectionner le jeu de l'accordéon, de la vielle et de la cornemuse. Et là, dans ces ateliers, dans ces bals, on a des jeunes qui viennent.
D'accord.
Voilà.
Très bien. OK. Alors, vous avez tous les deux, Mario et Bernard, une expérience de scène, si j'ose dire. Pas plus tard qu'il y a quelque temps, vous étiez à Longecourt-en-Plaine pour une soirée dansante. Qu'est-ce que vous retirez de ces expériences de scène, entre guillemets, et comment est-ce que vous vivez ces soirées dansantes, l'un et l'autre? Qui veut commencer? Mario.
Le plus gros plaisir, c'est de jouer pour du public, pour faire plaisir à d'autres personnes lorsqu'on joue, de les voir danser. En fait, c'est là où la musique traditionnelle prend vraiment toute sa dimension, parce que c'est une musique qui est avant tout dansante. Alors, on a des excellents groupes qui rendent la musique traditionnelle en plus extrêmement agréable uniquement à l'écoute. Mais à l'origine, c'est vraiment une musique pour faire danser, pour les chants et les contes aussi à l'origine. Mais là, nous, c'est vraiment dans le cadre de la danse qu'on s'inscrit. Et voilà, c'est là où notre musique se réalise pleinement. Donc, c'est ça le plus gros plaisir.
Et puis, je rajouterais aussi la complicité, parce que quand on est sur scène tous les deux, on n'a pas besoin de se parler, rien que les yeux, on sait où on en est, on sait ce qu'on voit. Mm-hmm. Et cette dynamique, je trouve, je suis peut-être immodeste, mais je trouve que cette dynamique, elle transpire aussi dans notre musique et dans la manière dont les danseurs la reçoivent. Ça veut dire que quand on joue et qu'on est bien, et qu'on est bien dynamique et que ça marche bien, on voit les danseurs qui sourient, qui ont la banane, qui ont envie d'y aller. Enfin, on a vraiment une relation tripartite, quoi. Il y a nos instruments, il y a nous deux en tant qu'instrumentistes, et il y a les danseurs.
Et une sorte de communion,
et
en fait.
Une communion entre les trois éléments, oui. Et ouais. C'est cette communion qui est vraiment intéressante et passionnante.
Lorsque vous jouez comme ça sur des soirées dansantes, le format, la durée de la soirée, ça dure jusqu'au bout de la nuit ou ça se termine comment et quand?
Par exemple, samedi dernier, nous, on a commencé de jouer à 20h30. On s'est arrêté à 22h, même si on avait encore des morceaux à jouer. Mais il fallait laisser la place au groupe qui venait du nord de la France. Et eux ont joué jusqu'à 1h du matin. Donc, c'est des soirées qui durent quand même 5 heures sans problème. Hein. C'est vraiment... c'est pareil, tant qu'on a des danseurs, on joue.
Donc et à 1h du matin, il y a encore beaucoup de danseurs sur la piste.
Oui, et donc vous avez un répertoire formidable quoi, qui permet de tenir des heures tous ces danseurs, ces danseuses en haleine.
On a beaucoup d'amis musiciens et souvent en fin de soirée, on ouvre la scène et on finit par ce qu'on appelle des bœufs, c'est-à-dire que tout le monde vient jouer avec nous et ça fait encore durer. Et là, les danseurs nous disent « Ah bah tiens, on n'a pas fait cette danse-là, est-ce que vous pouvez nous la jouer ?» Donc on la joue, enfin, c'est un cercle un peu sans fin.
Vous faites jukebox, en fait.
C'est un peu ça, et puis on a l'avantage d'être dans un milieu où beaucoup de monde se connaît, et où voilà, la communication est largement simplifiée. Voilà, les gens viennent nous voir, même des fois quand on est encore sur la scène, « Ah, est-ce que vous allez faire ça ? Est-ce qu'on va pouvoir danser ça ?» Et bon, bah, des fois, on adapte un peu en live.
Voilà.
Mais c'est la musique vivante, encore une fois.
Alors, dans les studios de Radio Shalom, nous n'allons pas danser. En tout cas, c'est pas prévu. Et puis, en plus, on ne nous verrait pas, puisque c'est une émission simplement écoutée. Mais nous allons vous écouter, vous, à présent, interpréter un premier morceau. Quel est le titre de ce premier morceau que vous allez nous jouer? Et quelle en est la genèse, l'histoire?
Alors, ce sont deux bourrées de temps. L'une s'appelle « En revenant de Montembert » et l'autre c'est « La bourrée à Linard ». Ce sont des airs traditionnels qui viennent du Morvan. Hein, et
voilà.
On est vraiment là dans une dynamique de danse. Vous entendrez dans le morceau qu'on a vraiment un rythme très marqué pour permettre aux danseurs de se lancer et de réaliser les figures de la bourrée de temps.
Thank you.
Magnifique, merci beaucoup pour ce premier morceau que nous avons écouté. Et pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, voici un second morceau que vous allez interpréter. Quel est-il? Quel est son titre? Et quelle est sa genèse là aussi?
Alors, c'est une mazurka qui a été composée par quelqu'un de local, Didier Longeard. Et donc c'est une mazurka d'inspiration du Morvan et elle s'appelle Les Flamants Roses, la mazurka des Flamants Roses. Thank you.
recevais aujourd'hui Mario Sostro Jouvenceau et Bernard Gugère. Je tiens à vous remercier tous les deux de votre participation à cette émission. Mario, je vous souhaite une très belle réussite pour votre thèse et Bernard, que votre avenir de musicien accordéoniste et votre passion pour l'animation de danse avec Tradidance, que tout cela vous enchante toujours autant. Le petit mot de la fin, comme d'habitude, je vous le laisse à l'un et à l'autre. Mario ?
Eh ben, merci beaucoup Frédéric pour l'invitation. Un petit mot, petite dédicace à mes parents, parce que c'est quand même eux qui m'ont permis de faire ce que je fais, qui m'ont toujours soutenu, et également à Marc Audet, qui est dans la vie perso mon parrain, qui m'a permis donc de le suivre dans sa tournée internationale dont il a parlé à votre micro. D'ailleurs, merci à lui pour le petit clin d'œil qu'il avait fait. Et également, merci au clin d'œil que nous avait fait Pierre-Olivier Berthaud, que nous connaissons très bien avec Bernard, et qui nous avait aussi fait un clin d'œil à la fin de son émission. Et nous lui avons également fait un clin d'œil dans la mazurka que vous avez entendue, étant donné que voilà, il y a une petite phrase musicale qui rappelle l'une de ses compositions.
Pierre-Olivier Berthaud et Marc Audet, deux invités de très grande qualité, effectivement. Bernard, le petit mot de la fin ?
Eh bien, Mario a presque tout dit, donc moi aussi, je vous remercie de nous avoir accueillis. Et puis, je tiens aussi à remercier tous mes tradis danseuses et tous mes tradis danseurs qui, tous les mardis, me font plaisir en venant danser et à participer à nos ateliers. Merci aussi à Mario, qui a été vraiment une très belle rencontre dans ma vie de jeune retraité.
Merci Bernard.
Merci Bernard. Et merci Mario. Merci à toutes et à tous. Merci à Élie aussi, sans qui cette émission ne pourrait être, mon excellent technicien. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Radio Shalom Bourgogne. Thank you.